Mondial Sport sur RFI. Martin Guez.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La CAN 2019, c'est terminé. Eh bien, pas tout à fait sur RFI avant de filer à la plage et d'enfiler nos belles lunettes de soleil. Dernier coup d'œil sur cette édition égyptienne. Le retour tard dans la nuit des Fennecs à Alger, le départ d'Hervé Renard au Maroc, les retraites de John Obi Mikel et d'Odion Ighalo au Nigeria. Mondial Sport balaye large ce soir pour sa dernière édition tournée vers la CAN. Restez d'ailleurs bien jusqu'au bout. Petit best-of à découvrir avec tous nos envoyés spéciaux. N'oublie pas non plus le Tour de France, cette nouvelle étape d'envergure dans les Pyrénées. Ni l'arrivée du défenseur prodige Mathis de Ligt à la Juve. Mondial Sport, c'est parti. Dernier coup d'œil dans le rétro sur la CAN 2019 avec notre retardataire sur cette 32e édition. Bonsoir Thomas Moulin.
Bonsoir Martin, bonsoir à tous.
Alors on en a parlé hier soir, le retour héroïque des Fennecs à Alger. Mais plus de 48 heures après leur sacre, l'ambiance n'est toujours pas retombée à Alger.
Oui, rendez-vous compte Martin, 29 ans que les supporters algériens attendaient cette deuxième CAN après le sacre à domicile de 1990. Un triomphe dans un climat politique tendu. Depuis de longs mois, de nombreuses manifestations sont organisées pour réclamer le départ des dirigeants en place. Alors cette CAN, c'est l'occasion pour les Algériens de faire la fête et d'exprimer leur fierté nationale. Avec nous, le journaliste Moumen Aït Kassi, qui a suivi les Fennecs dans la compétition et à leur retour au pays. Bonsoir.
Bonsoir à vous, ainsi qu'aux chers amis auditeurs d'RFI.
À vous entendre, la nuit a été longue pour les Algériens.
Eh oui, comme vous le dites, c'était une soirée inoubliable, une soirée historique. La nuit a été longue pour tout le monde. Hein. Ça a commencé le jour du match et hier aussi à l'accueil des Verts qui sont arrivés en début d'après-midi, d'abord le bus impérial qui a accueilli les joueurs au niveau de l'aéroport, au salon présidentiel. Donc ils ont pris la route vers le Palais du Peuple. Et croyez-moi, le bus a parcouru 25 km en 7 heures. C'était vraiment énorme. Pour expliquer un petit peu le nombre extraordinaire, impressionnant des centaines de milliers d'Algériens, pour ne pas dire des millions d'Algériens qui étaient à l'accueil, vraiment à Alger. Vraiment, les joueurs ont très, très, très apprécié ce moment de bonheur. Cette extraordinaire communion entre le peuple algérien, ses joueurs, l'entraîneur, le staff technique et tout. Donc voilà, c'était une journée, une autre journée de bonheur inoubliable qui sera gravée dans les annales du football algérien.
Donc ce deuxième sacre continental, c'est celui d'une équipe, mais c'est peut-être avant tout celui du coach Jamel Belmadi.
Ouais, deuxième sacre exceptionnel, ramené de l'extérieur, ramené des terres égyptiennes. Donc pour moi, ou pour tout le peuple algérien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jamais l'Algérie est parvenue à réaliser un tel exploit, aller chercher une deuxième étoile d'Égypte. Tout le monde ne donnait pas peut-être assez de crédit à cette équipe, ne donnait pas beaucoup d'espoir à ce coach qui avait, dès longtemps de sa mission annoncée, vous allez prendre pour un fou, mais moi, j'irai gagner cette Coupe d'Afrique. Vous comprenez un petit peu l'état d'esprit déjà instauré d'emblée par Jamel Belmadi, c'est-à-dire un message très fort à tous les joueurs. Celui qui veut venir avec moi pour la gagner, il est bienvenu. Les autres, vous pouvez faire votre carrière tranquillement dans vos gros clubs. Il a été très clair et tout le monde a compris ce message, y compris les grandes stars de la sélection nationale, Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli, ou la petite pépite Ismaël Bennasser, Youssef Attal, qui a émerveillé tout le monde en Ligue 1. Mais ces joueurs-là, avec Belmadi, c'était des joueurs, je ne vais pas dire des petits joueurs, non, c'était des joueurs plutôt dévoués, disciplinés, très 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 impliqués pour une seule cause, aller donner raison au coach qui avait déclaré d'emblée qu'on va y aller pour la gagner cette CAN.
Donc depuis quelques semaines, la jeunesse algérienne est mobilisée dans la rue. On a l'impression qu'elle s'est identifiée à cette équipe. Quel est le lien entre ces jeunes et les Fennecs de 2019?
Belmadi a réinstauré l'envie de jouer, l'envie de faire plaisir au peuple. Ce message du peuple algérien a beaucoup influé sur le rendement des joueurs parce qu'ils avaient tous envie de les rendre heureux, de rester sur cette communion et de rester toujours dans cette revendication qu'on trouve assez légitime. Bien sûr, dans le bonheur, offrir une Coupe d'Afrique, ça ne peut que propulser encore plus ce désir du peuple d'aller vers l'avant.
Merci Moumen Aït Kassi depuis Alger où les Fennecs ont célébré ce titre continental avec leurs supporters.
Alors Thomas, l'Algérie aux anges tandis que le voisin marocain déchante. Une élimination dès les huitièmes face au modeste béninois qui aura finalement marqué la fin de l'aventure pour le sélectionneur Hervé Renard. Et avec nous ce soir notre correspondant au Maroc Anas Yassine. Bonsoir Anas.
Bonsoir à toutes et à tous.
Alors, c'est désormais terminé, l'histoire d'amour entre le Maroc et Hervé Renard. On peut pas vraiment dire qu'on est surpris, c'est un petit peu la chronique d'un départ annoncé.
Oui, en effet, on peut dire que les premières rumeurs d'un départ de Renard ont commencé, et ça va surprendre, il y a un peu plus d'un an après le Mondial en Russie. À l'époque, déjà, on avait parlé d'une cassure au sein du staff technique, d'une détérioration des relations entre le technicien français et le patron de la fédération. Après quelques semaines de flottement, Fawzi Lakhdja, l'homme fort du football marocain, a mis les choses au clair en confirmant Hervé Renard dans ses fonctions. L'accalmie a duré, on va dire, quelques mois et les rumeurs sont reparties de plus belle. Au mois de mai dernier, plusieurs journaux, en France notamment, étaient catégoriques. Hervé Renard s'en ira après la CAN 2019, avait-on écrit à l'époque. L'info a circulé il y a quelques jours, démentie par la fédération d'abord, mais aujourd'hui, eh bien, le principal intéressé annonçait la fin de son expérience au Maroc qui a duré environ 3 ans et demi.
Alors, c'est désormais officiel, c'est acté, c'est terminé, Hervé Renard et le Maroc. Mais quel souvenir va-t-il laisser au Maroc? Plutôt les regrets de ne pas avoir remporté un grand titre ou alors de la satisfaction notamment d'avoir ramené cette équipe dans une Coupe du Monde 20 ans après?
On va dire les deux à la fois parce que les avis sont partagés. On va citer le titre d'un journal cet après-midi. Les lions domptés par un renard restent une mauvaise production. C'est un titre de la presse marocaine. L'opinion publique est également déçue. Les moyens, dit-on, qui ont été mis à sa disposition, les joueurs qu'il avait, il y avait moyen de faire mieux. D'autres regrettent cette issue. Renard a donné une identité à l'équipe marocaine. C'est bien sûr une évidence, un groupe compact, difficile à faire bouger, agréable à voir. Vous le disiez, le Maroc a disputé 3 gros tournois. 2017 au Gabon, élimination en quart de finale. 2019, là, il a sorti en 8e de finale de la CAN par le Bénin, une élimination qui a fait très mal. Et puis, la participation à une Coupe du Monde après 20 ans d'absence et grâce à Hervé Renard, malgré une élimination dès le premier tour dans un groupe où il avait l'Espagne et le Portugal. Mais on le sait, pour un entraîneur, les résultats restent le principal allié.
Merci beaucoup, Anas Yacine. On vous libère. Je crois que vous avez un avion à prendre. On vous souhaite bonnes vacances.
Merci beaucoup. Merci.
Alors, un renard qui quitte les Lions et 2 Super Eagles qui quittent le nid, Thomas, 2 pièces maîtresses du Nigeria qui ont décidé de prendre leur retraite internationale.
Oui, Martin, le milieu de terrain, John Obi Mikel, 32 ans, 89 sélections, il passe notamment par Chelsea, il veut laisser sa place aux jeunes. Et puis, autre départ, celui d'Odion Ighalo, 30 ans, meilleur buteur de cette CAN 2019 avec 5 réalisations. L'attaquant est lassé des insultes et des menaces reçues après chacune de ses occasions manquées. À Abuja, les explications de Bright Abiola.
John Obi Mikel n'était plus revenu en sélection après le mondial russe pour blessure. Il n'a plus aussi pris part au dernier match éliminatoire de la CAN. Mais pour la phase finale de la CAN, Mikel Obi était bel et bien présent parmi les 23 sélectionnés. Ike Okele, analyste sportif nigérien, donne les raisons qui ont motivé sa présence au sein des Super Eagles.
Pour ce genre de compétition, on a besoin des gens qui ont une certaine maturité, des gens qui ont déjà vu ce genre de tournoi. Et sachant que lui, il a fait son temps avec l'équipe nationale, et bien c'était bien qu'il y ait une sorte de guide pour les joueurs durant cette compétition.
Uche Uba, supporter nigérien, félicite Obi pour les loyaux services rendus à la nation.
Je me rappelle encore, quand j'étais plus jeune, j'oublie quelle année, mais quand il a joué pour les jeunes, là, je pense que c'était le 21, j'oublie qu'il y avait une Coupe du Monde de jeunes qui il avait vraiment marqué, il avait été le meilleur joueur. Je pense qu'il y avait aussi Messi dans cette Coupe du Monde. Et depuis lors, il s'est donné à fond pour la nation. Et je remercie beaucoup pour ça. J'espère qu'il sera un modèle pour les futurs joueurs des Super Eagles.
Pour vous, c'est sage, sa décision de partir?
Pour moi, oui. Je suis un grand fervent supporter de la phrase qui dit « Quitter la scène avant que la scène te quitte ». Donc si lui-même il sent qu'il n'arrive plus à donner ne serait-ce que sur le terrain, il sent que dans les années qui suivent ça va être difficile pour lui, c'est mieux qu'il parte et qu'il donne son soutien autrement.
Genetro, le sélectionneur franco-allemand de Super Eagles, tenait à lui rendre un hommage mérité.
Il quitte la sélection la tête haute, il peut partir avec une médaille de bronze et il en est très fier. Et c'était logique qu'il termine sa carrière là où il avait commencé en 2006, en Égypte, à la Coupe d'Afrique des Nations.
Concernant Ighalo, Genetro entend peser de tout son poids pour demander à son protégé de revenir sur sa décision, mais à une seule condition, s'il est toujours à la tête des Super Eagles.
Vous savez, moi j'ai toujours soutenu Ighalo. Il a été beaucoup critiqué, il a été pointé du doigt par beaucoup de supporters. Moi je pense que si je reste, il est aussi capable de revenir. Parce que nous avons des rapports très proches Et je crois que sur ce qu'il a fait, c'est vrai que ça serait une jolie fin de quitter avec le meilleur buteur dans les éliminatoires et dans le tournoi final. Mais il a encore un coup de main à donner, les jeunes ne sont pas encore prêts.
Après Victor Moses, voici deux autres joueurs majeurs de l'histoire récente des Super Girls qui se retirent du jeu. Bright Abiola, Abuja, RFI.
John Obi-Mikel et Odion Ighalo que vous pourrez retrouver sur les terrains la saison prochaine. Le désormais ex-capitaine des Super Eagles a signé début juillet un contrat de 2 ans avec le club turc de Trabzonspor. Quant à Ighalo, il évolue en Chine au Shanghai chinois.
Eh bien merci beaucoup Thomas Moulin. Voilà pour l'Algérie, voilà pour le Maroc, voilà pour le Nigeria. Fermé. On est complet, mais avant de dire définitivement adieu à cette CAN 2019, on la quitte comme on l'avait débuté début juin avec notre consultant désormais historique sur RFI, Joseph Antoine Bell. Bonsoir Joseph Antoine.
Bonsoir Martin Guez.
Alors cette 32e CAN est donc terminée, elle s'est achevée sur la victoire de l'Algérie, pas vraiment un beau champion sur la finale mais un champion logique, les Algériens qui ont attendu très longtemps, ça faisait 29 ans qu'ils n'avaient pas remporté la CAN.
Oui mais c'est pas chacun son tour, c'est au mérite. On compte pas les années de patience, on compte simplement la qualité de la production sur une édition. Et là, les Algériens ont été les meilleurs indiscutablement.
Le Sénégal qui échoue encore en finale et qui cultive un petit peu cette image de perdant magnifique finalement. Toujours pas de victoire et toujours pas de trophée dans l'armoire sénégalaise.
Absolument. La crainte maintenant, c'est que ça devienne établi au Sénégal et que ce soit une inhibition historique. Il va falloir que l'encadrement sénégal y travaille. Mais je pense que avant d'y travailler, il faudrait que l'encadrement lui-même ne soit pas atteint par la même inhibition.
Première CAN à 24, première CAN en été, ça a permis à certaines équipes qu'on attendait un petit peu moins, en tout cas que l'Algérie ou que le Sénégal, de se montrer. On pense à Madagascar, au Bénin. Ça a été une réussite de voir ce genre d'équipe qu'on n'attendait pas pouvoir percer dans le tournoi.
Je pense que ces équipes-là ont fait la promotion de la CAN à 24. Sur un plan personnel, je n'étais pas enchanté de voir la CAN passer à 24. Cela devait baisser le niveau. Mais je crois que cette histoire de niveau a dû être compensée par des entraîneurs qui ont fait du bon travail, il faut les louer pour ça, et par le fait que la période est devenue favorable à un travail d'entraîneur. Parce que quand vous jouez en janvier, les joueurs ils vous viennent directement des clubs, vous les avez 5 jours, donc en réalité 3, pour commencer votre compétition, et vous êtes déjà dans les matchs et vous ne pouvez pas vous entraîner, alors que là, en été, les joueurs, à la fin des championnats, peuvent se reposer, puis rejoindre leur équipe pour une préparation suffisamment longue qui donne le temps aux entraîneurs. Vous avez eu un temps de préparation qui aurait dû convenir pour apprendre à tirer les coups francs, les corners, toutes les balles arrêtées, à vous défendre et à mettre en place une tactique, ce que l'Algérie a su faire parfaitement.
Alors voilà, Joseph-Antoine Bell, la CAN en été, ça a été peut-être le gros point positif de cette édition. Par contre, le gros point noir, ça a été ces enceintes désespérément vides et donc la très faible affluence dans les stades.
Le problème de l'affluence dans les tribunes est récurrent. Chaque année, nous disons la même chose, que le public africain n'est plus habitué à aller dans les stades. Quand vous allez dans les pays, il y a bien de la ferveur pour le foot, mais pour le foot à la télé et pour le foot étranger. Et il en reste un peu pour l'équipe nationale. Or, l'équipe nationale, elle est périodique. Il y a un problème d'habitude et de chauvinisme. Ça veut dire que les Africains ne vont au stade que pour soutenir leur équipe et notamment leur équipe nationale. Le foot, en général, ne fait plus le plein dans les stades. On l'a amené à la maison et nous ne savons pas faire la fête. Il faudrait peut-être que nous apprenions à faire la fête. Le monde entier croit que nous savons faire la fête parce que nous savons danser. Mais je crois que nous ne savons pas faire la fête avec du spectacle.
Eh bien, merci beaucoup, Joseph-Antoine. On vous laisse retourner au Cameroun. Vous retournez à Douala, il me semble. Et on vous retrouve dans 2 ans.
Ben ok, ben à très bientôt au Cameroun.
Adieu la CAN, bonjour le Tour, 15e étape ce dimanche, à nouveau dans les Pyrénées, et à nouveau avec Thomas de Saint-Léger. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Martin.
Alors après le Tourmalet hier, nouvelle arrivée au sommet, aujourd'hui c'était au Prat d'Albis.
Oui, ascension inédite, mais du déjà vu dans le dénouement. Comme je dis à Bagnères-de-Bigorre, c'est le Britannique Simon Yates qui s'est imposé dans la brume du Prat d'Albis. Et comme hier, dans le Tourmalet, c'était le show Thibaut Pinot. La grande différence, c'est que cette fois-ci, c'est une première dans ce Tour. Julian Alaphilippe a coincé. Le maillot jaune a d'abord été l'un des seuls à pouvoir suivre l'accélération de Pinot, mais à environ 4 km du sommet, son coup de pédale est devenu haché. On l'a vu piocher progressivement perdre la roue de son compatriote à l'arrivée. Il est même doublé par Geraint Thomas, par plusieurs favoris, et forcément son avance commence à fondre. 1 minute 35 sur Thomas, 1:47 sur le troisième Steven Kreuzvac et 1:50 sur Thibaut Pinot.
Thibaut Pinot donc quatrième du général ce soir avant la dernière semaine et trois étapes très dures dans les Alpes. Il revient un petit peu plus dans le jeu pour la victoire finale à Paris, Thomas.
Oui, d'abord parce qu'en deux jours, il a refait une partie de son retard, ce temps perdu sur la fameuse bordure d'Albi en début de semaine. Et puis, il y a cette impression, l'impression qu'il est le meilleur de ce tour en montagne, Thibaut Pinot. Tous les autres, ou presque, ont eu un moment de faiblesse. Pas lui, la dynamique est positive, mais attention, on le sait, Pinot, dans le passé, a souvent connu un jour sans et un jour sans dans le tour. C'est fatal, le scénario catastrophe peut-il se reproduire cette année? Question posée à celui qui peut-être le connaît le mieux, son frère et entraîneur, Julien Pinot.
C'est plus les autres qui ont du souci à se faire au final, voilà. Mais bon, il n'y a pas de raison, il est frais, il est bien, et quand il y a de la confiance comme ça, et que la bonne santé aussi du groupe tire vers le haut, donc voilà, s'il n'y a pas de pépin, ça devrait aller. Là. Je pense que tout le monde a laissé d'énergie, je pense qu'il y en a qui plient, on en voit qui plient aujourd'hui, c'est parce que voilà, le tour c'est hyper stressant, beaucoup plus que les autres courses, et c'est ça aussi qui fait que ça commence déjà à plier, et je pense que les Alpes vont être terribles pour ça, parce qu'il y aura en plus le facteur altitude qu'il y avait moins ici. Ouais.
Thibaut Pinot et son frère Julien Pinot que vous venez d'entendre. Thibaut Pinot, le nom le plus cité quand il s'agit de désigner désormais le favori de ce tour, en tout cas le plus cité par ses adversaires.
Alors un destin croisé avec celui d'un autre Français, Romain Bardet, qui lui a vécu un véritable calvaire hier. Aujourd'hui, c'était quand même un petit peu mieux.
Oui, 20 minutes de perdu dans l'étape du Tourmalet, les ambitions au général aux oubliettes. Lui reste à jouer les victoires d'étape. Alors le deuxième du Tour 2016 a tenté aujourd'hui. Il s'est glissé dans la bonne échappée. Il a été l'un des derniers à pouvoir accompagner Simon Yates pour le bouquet du jour. Mais comme hier, comme depuis le début de ce Tour, les jambes de Romain Bardet ont dit stop. À un moment, il termine loin finalement, 18e de cette étape. Mais la réaction d'orgueil lui redonne un petit peu de morale.
Mon seul but, c'est de me porter à l'avant comme ça. J'ai quand même pris du plaisir à être devant. J'ai beaucoup, beaucoup d'encouragement, beaucoup d'amour sur les routes. Et ça m'a fait chaud au cœur parce que il y a des moments difficiles. Mais c'est en se portant comme ça, en étant vaillant à l'avant, que je retrouverai petit à petit le chemin de la réussite. C'est un tour très, très éprouvant. Donc il va y avoir beaucoup de... Il va se passer encore beaucoup de choses en troisième semaine. Je pense que les attaquants vont pouvoir être récompensés. Donc moi, je vais m'atteler à bien récupérer. C'est clair que je vais avoir des ambitions sur chacune des étapes alpestres. C'est des routes que je connais bien. En tout cas, j'ai envie de donner tout ce que j'ai, même si j'ai peut-être pas grand-chose sur ce Tour de France. Je vais finir la tête haute et essayer de pouvoir enfin m'exprimer.
La lucidité de Romain Bardet au micro de Carlos Pizarro.
Et Thomas, des nouvelles maintenant du coureur érythréen de ce Tour de France, Nathanaël Béran, qui lui aussi s'est montré aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, on a vu le maillot du champion national érythréen en début de course, tentative d'échapper infructueuse. Cette fois-ci, Nathanaël Béran n'a pas réussi à prendre le bon coup, comme on dit. Il finit loin de la tête de course, mais lui, niveau moral, ça va. Il faut dire qu'à chaque départ d'étape, il y a au moins un drapeau érythréen près du bus de son équipe Cofidis. Forcément, ça donne un peu plus de force, Nathanaël Béran. En version française, s'il vous plaît, on salue l'effort.
Oui, c'est un peu bon motivation avant le départ, hein, voilà. Après la course aussi, si c'est bien quelqu'un qui est venu pour sa porte pour toi, il y a une grande opportunité, c'est un grand moral pour faire ça.
Et puis ça fait parler de votre pays sur la plus grande course du monde, ça c'est énorme.
Oui, c'est énorme. Je connais, c'est incroyable. Quand je suis dans l'échappée, tout ça, pour moi, c'est très bien. Quand je suis national aussi, c'est en plus, c'est mieux quand tu es national, quand on parle à tout le monde.
Nathanaël Béran, qui est ce soir 113e du classement général, pour lui comme pour les autres, repos bien mérité demain avant une dernière semaine très difficile, on l'a dit, des étapes dures dans les Alpes et puis la canicule qui arrive sur le pays, ça va chauffer sur le Tour de France.
Très bien, donc ça chauffe, bon repos à vous Thomas et à Bertrand Eclair qui a assuré ce soir la liaison technique.
Ah.
À peine arrivé, déjà adulé, pourtant il est à peine plus vieux qu'eux. Mais Mathis de Ligt est déjà l'idole des jeunes de la Juventus de Turin. À 19 ans, la nouvelle gloire, c'est bien lui, 85 millions d'euros. Un record pour son poste et un pari sur l'avenir. Et ce n'est pas notre correspondant en Italie, Matteo Cioffi, qui va nous contredire. Bonsoir Matteo.
Bonsoir, bonsoir Martin.
Alors la vieille dame qui s'est entichée d'un jeune prodige et qui a cassé sa tirelire pour Mathis de Ligt.
En effet, le club a dû payer 75 millions d'euros et en plus, elle a dû faire un chèque supplémentaire de 10 millions d'euros en faveur de son agent Mino Raiola. Donc en tout, ça fait 85 millions d'euros pour ce jeune joueur de 19 ans qui est le troisième transfert le plus coûteux dans l'histoire du club torinois, car seulement celui de Higuain de Ronaldo avait coûté plus cher. Le joueur donc gagnera 7,5 millions par saison d'ici en 2024. Et en conférence de presse, il a su utiliser les beaux mots pour se faire apprécier par la presse italienne, mais surtout par les tifosi de la Juve. Écoutez-les.
Je crois que j'avais 6 ou 7 ans et en tant que défenseur, je voulais ressembler à celui qui était le plus fort de tous à l'époque. Je crois que vous avez compris, je parle de Fabio Cannavaro en 2006. Il venait de gagner la Coupe du Monde et ensuite le Ballon d'Or. Donc forcément, j'étais un très grand fan de lui et de la Juventus.
I was a fan of them when I was young.
Et voilà déjà les bons mots de Mathis de Ligt. Et pourtant le PSG et le Barça étaient sur le coup, Matteo. Mais c'est bien la Juve qui renforce son secteur défensif avec ce qu'il se fait de mieux sur le marché en Europe.
En effet, en plus la Juve a besoin de rejeunir sa défense et trouver ceux qui devront prendre la relève, car Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini commencent à avoir un certain âge, 32 le premier et 34 le deuxième. Mais au-delà de ça, l'arrivée du Néerlandais s'adapte très bien au jeu de Maurizio Sarri, qui utilise toujours une défense à 4 et donc ou un joueur physique, très physique, avec une bonne technique comme De Ligt sert toujours. De Ligt est donc précieux pour les techniciens sur les terrains, mais aussi en dehors, car toujours hier en conférence de presse, il a voulu dire que s'il est là à Turin, c'est aussi grâce aux techniciens.
I spoke to him on the phone, really short.
On s'est parlé au téléphone très rapidement, seulement pour nous présenter respectivement. Mais travailler avec Sarri est une des raisons qui m'ont poussé à accepter le transfert à la Juve. J'ai entendu de très belles choses sur lui, sur sa philosophie de jeu et sur la façon dont il entraîne le secteur défensif de l'équipe.
Big reason to come here.
Alors voilà, la belle histoire entre De Ligt et Sarri, ça a l'air bien parti, et la Juve qui frappe donc un grand coup sur le marché des transferts. Mais Matteo, d'autres clubs italiens se renforcent, notamment le Milan AC qui a fait une très très belle affaire avec l'achat d'Ismaël Benacer, élu récemment meilleur joueur de la CAN.
En effet, c'est la CAN qui a ouvert les yeux de Tifosi Rossoneri, extrêmement ravi d'avoir découvert ce jeune Algérien de 21 ans, car je ne vous le cache pas Martin, mais quand l'AC Milan, il y a quelques semaines, a annoncé l'arrivée de ce joueur, les supporters milanais ont protesté car ils ont eu la sensation que leur club avait décidé de miser seulement sur deux joueurs à bon prix en provenance d'équipes de moyenne taille, comme dans le cas de Benacer qui a joué à Empoli l'année passée, Empoli descendu cette année en Serie B. Mais aujourd'hui, tout a changé. Ismaël Benacer, qui est attendu à Milan dans les prochains jours, est donc prêt à être accueilli comme il se doit, et avec le grand espoir qu'il puisse donner un grand coup de main au projet de renaissance de l'équipe lombarde.
Eh bien, merci beaucoup, Matteo. On observera évidemment de près les premiers pas d'Ismaël Benacer avec le Milan et ceux de Mathis de Ligt avec la Juve, reprise de la Serie A le 24 août. Allez, avant de refermer Mondial Sport, chose promise, chose due. Le best-of de la CAN 2019, des matchs par dizaines, des buts à l'appel, des enflammades, des pertes de contrôle, des fous rires. Vous avez tout vécu avec nous, et encore plus que d'habitude avec cette CAN à 24. On a donc eu droit à tout, à tout, à tout.
Là, on a droit à tout.
À tout.
Tout.
À tout.
À tout, Olivier, Joseph, Antoine, et surtout à des bonnes blagues.
Et un carton supplémentaire. Qu'est-ce qu'on en a des cartons? On n'a qu'un seul but.
On dirait un déménagement. Il y a tellement de cartons qu'on dirait un déménagement.
Oui, bien vu, attention.
Oui, bien vu, attention, car impossible d'éviter Claude François en Égypte.
Maintenant, les sirènes, c'est assez récurrent ici en Égypte.
Elles sont plutôt au port d'Alexandrie. Ouais.
D'accord, donc. On ne reviendra pas
sur. Mais il nous a tendu la perche,
oui,
quand même.
Oui, c'est vrai.
Mais... Il est né à Ismaïlia.
Oui, Claude François, effectivement, est né à Ismaïlia. Martin, voilà, c'est une belle perche, effectivement, tendue. On aurait pu le dire tout à l'heure pour présenter cette ville.
Alors, Ismaïlia, ville de Claude François, mais aussi ville des premiers 0-0 de la CAN.
Eh, hey, dites donc, il n'y a pas eu un seul 0-0 depuis le début.
Non.
Eh ben, ça va être pour moi, cherchez pas.
Non.
Non, ils vont pas laisser faire ça.
Et si, non seulement ils vont laisser faire ça, mais ils l'auront même fait trois fois. Cameroun, Ghana, Mauritanie, Angola, Bénin, Guinée-Bissau. C'en est trop pour Joe.
Un contrôle le dimanche matin.
Et pourtant, les trois matchs ont eu lieu le samedi soir.
Forcément, le ballon.
Il
y en a qui jouent très bien le dimanche matin.
Alors, peut-être très bien le dimanche matin, mais pas ce samedi 29 juin, à s'en arracher le peu de cheveux qu'il nous reste.
Ouais. C'est à peine plus jeune qu'Antoine Grenier, et pourtant, Antoine Grenier, il a déjà plus de cheveux.
Alors, non, vraiment, c'est désespérant.
Il était sorti
qu'est-ce que c'est nul.
Oh purée, mais c'est pas vrai.
Alors franchement, on est au quoi? C'est le bas de tableau du national là, non?
Oui,
quand le spectacle n'est pas au rendez-vous. Et le mieux, c'est encore d'en rire.
RDC Zimbabwe, c'est un nouveau 0-0, puisque j'y serai. En compagnie de Cédric de Oliveira, qui lui-même a connu un 0-0 aujourd'hui à Suez.
Mais rassurez-vous, il n'y a pas eu que des rires pour se moquer de quelques purges. Certaines comparaisons ont aussi fait mouche.
Christophe, vous faisiez un petit tour d'Afrique des messages sur la page Mondial Sport sur Facebook. Moi, oui. J'en ai un qui est directement adressé à Hugo Moissonnier. C'est Kanouté Diakalaye. Qui vous félicite et qui est très heureux de vous écouter, vous, avec votre voix à la Didier Roustan.
Ça vous va?
Alors, vous prenez comme vous voulez.
Bah, écoutez, c'est très flatteur, effectivement. C'est très flatteur. Je ne sais que dire. Les mots me manquent.
Eh bien, ne dites rien.
Alors, merci.
Et comparaison n'est pas raison, même si certains y tiennent à avoir raison.
Vous êtes en train de nous dire que vous aviez raison, voilà, c'est ça.
J'ai dit que j'avais raison, mais je rajoute une petite précision.
Très bien, Martin, parfait.
Parfait, enfin, pas toujours, certains intrus se sont invités sans le savoir à l'antenne, comme nos techniciens Bertrand Éclair et Thibaut Baduel.
Ça va Bertrand, okay. Tu m'entends?
Ouais, je t'entends très bien, super.
Ah cool,
sauf que tout le monde vous entend, messieurs.
Ça passe à l'antenne? Comment ça peut passer à l'antenne?
Mais puisqu'on vous le dit que ça passe à l'antenne, faites-nous confiance.
Ah, c'est pas possible, ça. Et qui c'est qui se fout de notre gueule?
Personne, promis, même si le mieux, c'est peut-être de ne rien dire.
Ouais, attends, on va peut-être se taire si on passe à l'antenne.
Non, c'est des conneries.
Les invités surprises à l'antenne, est-ce que ça mérite un carton, Eric Mamrut?
Et l'arbitre qui siffle même, enfin, il est généreux du sifflet, hein.
Une carte à en perdre son sifflet, ses cartons en perdre son latin et parfois en perdre nos prénoms.
Messieurs Christophe Suto, messieurs Olivier Pron et monsieur Joseph Antoine Bell.
Frédéric Suto.
Pardon.
Mais en même temps, cette bonne guerre, je l'appelle Jean-Clément.
Bah, c'est ça.
Mais ça. Ouais, ah. Pardon.
Jusqu'à la fin, on vous appellera Jean-Paul parce que c'est voilà. Notre bon plaisir.
Allez. Cela dit, est-ce qu'il ne veut pas mieux oublier un prénom que de perdre sa voix?
Pour le reste, c'est des fêtes et des fêtes. Vous vouliez dire quelque chose peut-être
Pas du tout, j'ai une petite quinte de tout, pas de soucis.
Ça arrive, il n'y a pas de soucis.
Pas de problème.
Il n'y a pas de problème, on vous entendait.
Dans deux minutes, ce sera la fin. On va essayer de garder l'antenne suffisamment pour que vous puissiez tousser convenablement.
Jusqu'à 23h.
Alice, coupez son micro, s'il vous plaît.
Allez, une dernière petite blague d'Olivier qui ne nous rajeunit pas.
J'avais 10 ans, mon petit bonhomme.
Oh là là, moi j'en avais moins 6.
Mais Médard Chablaoui qui nous accompagne ce soir, on avait déjà 44.
Et le mot de la fin pour Joseph Antoine. Alors, cette canne, elle était comment?
Elle a été bonne.
Voilà l'heure de dire merci, on n'oublie personne.
Grand merci à notre technicienne Alice Ménard. Ça nous arrive aussi d'être entre femmes. Très bonne soirée sur RFI.
Alors entre femmes et aussi entre hommes, vous les aurez reconnus. Olivier Pro, Antoine Grenier, Frédéric Suto, Hugo Moissonnier, Thomas de Saint-Léger, Eric Mamrut, Cédric de Oliveira, Christophe Jousset, Marie-Amélie Motte, Thomas Vichard, Tom Rossi, Joseph Antoine Bell, mais aussi les petits intrus Bertrand Éclair et Thibaut Baduel. Je n'aurai pas le temps de remercier tout le monde, mais merci en tout cas évidemment aux équipes web, à la technique, aux vidéastes, à tous ceux qui vous ont fait vivre cette CAN 2019 sur RFI. Merci aussi à vous, chers auditeurs, sans qui nous ne saurions rien. Et puis merci ce soir à Valentin Vaner à la réalisation. On se retrouve dans deux ans en Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Et on se retrouve évidemment tout l'été sur RFI car le sport, lui, ne s'arrête jamais.